au coin de la folie, c'est ta gorge en allée de ce foulard de soie. C'est un soleil bâtard, bon pour les rayons X. C'est la pension pour un, dans un caveau pour trois. C'est un espoir perdu qui se cherche un préfixe. C'est cet enfant perdu au bout de mes caresses. C'est le sang de la terre avorté cette nuit. C'est le bruit de mes pas quand marche ta détresse. Et c'est l'imaginaire au coin de la folie. C'est ta gorge en allée de ce foulard de soie. C'est un soleil bâtard, bon pour les rayons X. C'est la pension pour un, dans un caveau pour trois. C'est un espoir perdu qui se cherche un préfixe, le désespoir.
On n'a pas été fou la fin, ni truand, ni même aigre fin, et on n'a pas passé tricard notre enfance dans un placard. On entend, on parle et on voit, on n'a pas une main qu'on n'a pas, on va pas crever dans l'hiver, on n'a pas un squelette en verre, ni récupérer chez maman un chromosome en supplément. Eh ben tu vois, malgré tout ça, même pas foutu d'être heureux tous les deux, y a des coups de pied au cœur qui se perdent. Merde. On va pas mourir du sida, on n'est jamais mort au Rwanda, non plus étouffé à Bhopal par le nuage cannibale. On n'a pas attrapé la guerre, ni connu les abris naguère, pas perdu famille et amis d'un seul jet dans un tsunami, pas bouffé de rayon gamma, mon amour à Hiroshima. Eh ben, tu vois, malgré tout ça, même pas foutu d'être heureux tous les deux, y a des coups de pied au cœur qui se perdent. Merde. On n'a pas fini SDF dans un entrepôt d'AZF, ni enterré sous le limon dans les boyaux de Douaumont. On n'a jamais eu à se rendre, on n'a jamais eu à se pendre, on n'a jamais dû vendre un rein ou un œil contre trois fois rien, ni contre deux sous échanger un enfant pour pouvoir manger. Eh ben tu vois, malgré tout ça, même pas foutu d'être heureux tous les deux, y a des coups de pied au cœur qui se perdent. Merde. Les jours se suivent et se rassemblent, et voilà qu'on vieillit ensemble. Bien sûr on a quelques misères, des catastrophes ordinaires. Un voisin qui part avant nous, des instants que l'angoisse noue, les petits coups de pied en vache que le temps rumine et remâche, qui font mal mais sont peu de choses quand tout autour la terre explose. Alors tu vois, avec tout ça, faut s'obstiner à être heureux plus nombreux. Y a des coups de pied au cœur qui se perdent.
Matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qui passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Et sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire piétiner.
La musique. un maximum. Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du...
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive le
soleil.
Vive
les oreilles.
Libre.
J'ai envie de venir vous voir. Quand j'étais étudiante, je fabriquais des sculptures uniquement pour les voir tomber. Alors, j'en fabriquais une, notamment en frisure de bois. Au début, je pensais que c'était de la paille parce que ça avait la même couleur. Et elle est arrivée complètement compressée dans un parallèle épipède. Et pour l'extraire, il fallait beaucoup de force. Et c'est des longs fils qui sortaient comme ça. Et c'est comme si elle était déjà faite, la sculpture. J'avais rien à faire, en fait. Elle se faisait toute seule. Elle se construisait par masse. Parce que tout était agglutiné. Et là, paf, je la posais et c'était déjà une masse. Et donc, je continuais. Je la montais. Encore. Elle tenait debout, sans structure. C'était génial. J'avais rien à faire, j'avais rien à penser. J'étais dans l'action. Hop. Voilà. Elle est là. Bon, bah, il se passe rien. Alors, je vais la déstabiliser un peu. Et un peu là. Hop. Voilà. Et là, je pouvais attendre des heures jusqu'à ce qu'elle tombe. Je pouvais partir de la salle, revenir. Elle était toujours là, ou alors elle était tombée sans moi. Elle vient de tomber. D'un seul tenu. Alors vite, je la reconstruis. Parce que comme mes gestes sont pas pareils, elle va pas tomber pareil, c'est sûr. Et elle va être différente, hein. Ça va pas se voir, mais de l'intérieur, elle va être différente. Voilà. J'étais aussi fascinée par Francis Bacon et les déformations du corps et les mille possibilités de ses formes. Le corps m'apparaissait déjà étonnamment expressif. Avant mon accident, mais jamais je ne m'étais posé la question « et le corps qui se reforme ?» Mais c'est aussi beau. Le corps qui se reforme est tout aussi expressif. Je sollicite énormément mon cou pour marcher. Mon cou ressemble à des racines d'arbres. On parle de déformation chez Bacon. Et si c'était à chaque fois quelque chose qui essayait de se former, en mutation constante, toujours le même visage qui change d'identité? C'est la richesse du corps. Nous sommes de la pâte à modeler. La capacité d'adaptation du corps est proche de la folie. Un jour, à Garches, j'ai vu une fille en fauteuil roulant, elle bougeait les jambes. Alors je cherchais où était le problème. Les pieds. Son pied gauche était normal, dans sa chaussure, qui montrait la mâchoire en avant, mais son pied droit n'était pas là. En fait, ce que j'avais pris pour de l'absence était en réalité le talon de son pied. Et ce qui était fou, c'est qu'elle pouvait marcher avec des béquilles. Mais elle marchait comme ça. Les orteils de son pied gauche étaient au même niveau que le talon de son pied droit. Et c'était même pas de naissance. Un jour, son pied avait décidé de changer de direction.
Allez, Radio ouais. Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 FM et radio-libertaire.net. Vous écoutez Les Oreilles Libres à Paris, dans le 20e arrondissement. Et nous accueillons aujourd'hui avec grand plaisir Aurélie Denis. Bonjour Aurélie.
Bonjour Patricia.
Alors, peux-tu nous situer la performance dont nous venons d'écouter un extrait qui s'appelle Une brève histoire du mouvement?
Ah. Ok. Tu veux dire, vous la situez dans l'espace ?
Et le temps ?
Oui. Alors, elle était, j'ai fait cette performance pour le festival, un festival à Aubais, au château d'Aubais, en 2018. Et c'était une composition de plusieurs textes sur une réflexion sur le temps, le corps et... Et en toute humilité, l'art, enfin voilà, le mouvement, et le mouvement bien sûr, oui. Mm-hmm.
Dans cette performance, tu t'adresses au public, tu mêles la narration, donc tu parles, les actions, le mouvement, bref, tu racontes de différentes manières, tu as différentes manières de raconter, différentes manières de raconter ce télescope. Mais c'est toujours de raconter qu'il s'agit. Tu racontes que tu faisais... dans le passé, des sculptures. Quelle est ta formation artistique ? Tu es plasticienne au départ, quelle est ta formation ?
Oui, alors j'ai une formation dans une école, l'école des arts déco de Strasbourg, qui s'appelle la Haute École du Rhin aujourd'hui. Et j'ai fait mes 5 ans là-bas, en art. Il y a plusieurs options, différentes disciplines, et moi c'était en option art. Et effectivement, je travaillais la performance et la sculpture et la photo.
D'accord.
Et en sculpture, je fabriquais des sculptures pour qu'elles tombent. Donc j'avais commandé par exemple de la frisure de bois. Et quand j'ai vu le paquet arriver, tout était agglutiné, donc j'ai pris avec mes mains pour désagglutiner les longs fils comme ça de la frisure de bois pour les démêler, et donc ça a pris du volume, une épaisseur, et j'ai commencé à instinctivement à monter la sculpture, un peu comme des espèces de nuages, comme ça, de frisures de bois, et échelle 1 jusqu'à échelle humaine. Et je voyais qu'elle commençait à tanguer un peu. Plus je montais haut, plus effectivement la base est grande au sol, et plus ça se rétrécit en haut. Et du coup... ce mouvement en fait qui commençait à tanguer m'a intéressée, et là je me suis dit si je monte plus haut ça va peut-être tomber, et donc effectivement c'est tombé devant moi, et après j'ai voulu reproduire cette chute, donc je reconstruisais la sculpture pour qu'elle tombe, et là quand j'intervenais pas elle tombait quand elle voulait, en fait. C'est ça qui me fascinait, c'est-à-dire que je pouvais aller aux toilettes et revenir, et j'avais manqué la chute, elle était tombée sans moi. Donc là, j'étais un peu triste. Donc je la remontais, et puis j'attendais, et puis une heure après, il ne se passait rien. Donc quelquefois, j'intervenais, j'enlevais des petits morceaux pour la faire tanguer encore plus, la déséquilibrer. Et c'est là où je me suis dit, l'équilibre, et il y a instabilité aussi. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir à ces mots-là. Parce que quand je fais quelque chose, il y a des mots qui me viennent ensuite. Et je me suis dit, l'équilibre instable. Là, je me suis dit, d'accord, ok, bon. Et j'ai fait d'autres sculptures aussi dans ce sens-là. Pour, je les montais jusqu'à ce que je sente que l'équilibre devienne un peu instable et que la chute soit pas loin. Mmh. Et je me suis dit, la chute, c'est le début du mouvement. Et j'aimais beaucoup une artiste, que j'aime toujours d'ailleurs, Laurie Anderson, qui disait « Walking is falling ». Et ça, ça me travaillait, quoi.
Donc marcher, c'est tomber.
Voilà, c'est ça. Mm. C'est ça, marcher, c'est tomber. Sauf que comme on marche vite, on ne voit pas la chute. Enfin, voilà.
Ouais, ouais, d'accord. Et c'était des sculptures de corps ?
Là, c'est de la frisure de bois.
Ouais,
tu vois, donc la frisure de bois, c'est un matériau très léger, très aérien. Il n'y a aucune structure à l'intérieur. Okay. C'est jaune. Ça ressemble à de la paille, quoi, en fait. Ça ressemble à de la paille. Sinon, après, c'était des sculptures avec de la fibre de verre, des tiges que je mettais dans des petites boules, dans des pattes. Et puis je construisais un peu comme un atome, et puis et donc la base voilà pareil était plus large, et plus j'arrivais en haut, plus les longues tiges commençaient à moins tenir parce qu'il y avait moins de points d'appui, en fait. Voilà. Et sinon aussi je faisais du crochet, et dans les trous j'avais mis plein de spaghettis, et du coup, ça, avec la rigidité des spaghettis, ça prenait une forme, et à un moment donné, ça cassait les spaghettis, parce que j'en mettais plein partout, hein. Et donc, tu avais des spaghettis qui sortaient de tous les trous, tu vois. Et du coup, donc, ça prenait la forme, tu vois, parce que le crochet, c'est mou, ça y a une forme molle. Et les spaghettis viennent structurer, ça sort par les trous, parce que je ne les coupais pas, les spaghettis, ils étaient longs, tu vois. Et donc, ça prend la forme que ça prend. Donc, comme une espèce d'insecte, comme ça, avec plein de pattes partout, tout ça. Et puis, à un moment donné, crac, ça casse. Parce que justement, il y a trop de poids. Mais que tu gères pas, tu sais pas.
D'accord.
Et donc j'aimais bien ça parce que les sculptures avaient leur autonomie, tu vois. C'était comme des êtres vivants. Et puis ça rappelle aussi quand t'es petit, quand tu fais des jeux de construction, tu vas haut, tu vas là, jusqu'à ce que ça tombe.
Ouais.
Et t'adores quand ça tombe parce que c'est imprévisible. Tu sais pas quand est-ce que ça va tomber. C'est un jeu de gamin, ça, en fait. C'est la surprise, en fait, c'est la surprise.
Donc il y a la surprise, le mouvement.
C'est inattendu.
Voilà, la chute qui était très importante.
Ouais, oui, voilà.
Et donc
pour pouvoir recommencer peut-être.
Ouais.
En fait, tu vois, c'est ça. C'est comme la marche, bah tu tombes pour pouvoir te rétablir.
Justement, tu dis tu pouvoir te rétablir pour tu dois t'adapter.
Bah moi ou les gens de manière générale.
Ben si tu veux te rétablir, il doit y avoir une adaptation.
Ouais. Oui, effectivement, quand on marche sur des sols différents, on s'adapte. Oui, c'est-à-dire que si on va marcher en montagne avec des petits cailloux et tout, là toute la colonne vertébrale va t'aider à adapter ta voûte plantaire tes pieds, quoi.
Ouais, dans cette performance qu'on vient d'écouter là,
ouais,
au début,
ouais.
Tu dis la capacité d'adaptation du corps est proche de la folie.
Oui, mais alors ouais. Oui, ça c'est dans ce texte-là, c'est parce que à Garches, à l'hôpital où j'étais pendant ma rééducation en 2005, donc ça date, hein. J'ai vu une jeune femme effectivement qui était en fauteuil roulant, mais elle avait un pied qui était on voyait son pied devant moi, son pied était là, quoi, et le pied à côté, il y avait juste un talon de pied, quoi. Et je me disais, mais il est où, son pied? Et en fait, il était derrière. Et du coup, quand je l'ai vu marcher en rééducation, je la voyais marcher, un pied qui avançait et un pied derrière, mais qui avançait aussi. Tu vois? Donc en fait, son pied qui s'était complètement retourné, elle arrivait quand même à marcher. Et là, je me dis, mais c'est fou bon, elle marchait avec des béquilles, mais c'est fou de marcher avec le futur et le passé en même temps,
ah,
tu vois.
D'accord.
Tu vois, parce que le pied était tourné vers le passé et l'autre pied est tourné vers le futur, enfin vers la progression, vers.
Et elle arrivait quand même à marcher avec un pied qui était... Et ça, c'était pas de naissance, en fait. C'est ça qui est... Parce que souvent, de naissance, on s'adapte, ou très petit et tout, on a une... Bon. Mais ça s'est fait, son pied s'est retourné progressivement. Et donc, voilà, donc quand je dis que c'est proche de la folie, c'est que je me dis que le corps est tellement intelligent... Que, voilà, il y a une forme de folie parce que ça nous dépasse, parce que c'est presque, ça va au-delà de l'entendement,
ouais.
En fait. C'est, c'est ça, moi, que j'appelle folie.
Oui, oui. Ouais, ouais. Et est-ce qu'on peut dire, dis-moi si on peut le dire,
oui, bien sûr,
que ton matériau artistique était plutôt extérieur à un moment donné à toi et que petit à petit, enfin, il est devenu ton propre corps.
Oui. Alors, oui et non, parce que je faisais des performances avec mon corps aussi. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, je faisais des performances avec mon corps.
Donc, il y a un intérêt pour le corps depuis longtemps, depuis le début, quoi.
Ouais, ouais, oui, 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 oui. Oui, de, ouais. Alors ça.
Il y a comme... une passion pour ça.
Oui,
hein.
Ouais. Ouais, 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 ouais. Oui, je crois que ça. C'est...
Voilà.
Oui, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. C'est venu avec Francis Bacon très tôt pour ouais sur les avec les visages, la déformation. Ouais, c'est ça.
Ouais, d'accord. Et donc cet intérêt pour le corps, on le voit bien dans le taxi parce qu'il s'est passé des choses aussi.
Oui.
Voilà. Donc ce livre que tu as écrit, quand est-ce que l'as-tu écrit et à quelle occasion alors?
Oui. Alors le taxi, donc c'était ça a été après la rééducation, après l'accident. J'avais plein de sensations nouvelles, des choses que je ne sentais plus, que je donc j'avais un corps complètement nouveau, on peut dire expérimental, enfin que j'expérimentais et que je trouvais très parlant. En fait, et j'avais besoin d'en parler et de partager surtout en fait. Et donc j'ai commencé à m'intéresser, hein, mais même avant l'accident, aux écrivains qui parlaient du corps, mais je trouvais pas de dialogue. Donc je me suis mise à rentrer en dialogue avec mon corps, avec les mots, et mais c'était pour faire des lectures, et mes premières lectures ont été à la médiathèque de Garches, de l'hôpital à Garches, à Raymond Poincaré, et j'ai lu devant les infirmières, devant les patients, et ça a été mes premiers pas face à un public. Et j'ai trouvé ça réjouissant, enfin, et surtout j'écrivais pour un public, c'était vraiment ça. Et plus j'écrivais, plus je changeais aussi en live des mots, des phrases. Quelquefois j'enlevais un paragraphe ou je changeais des choses parce que au niveau du rythme, à l'oralité, ce que j'avais écrit, ça, c'était moins parlant, justement. Et donc, voilà, ça devenait une lecture performative parce que je transformais mon matériau de départ et le public me donnait ça. L'écoute du public me donnait aussi participer à ce rythme que je trouvais dans le corps. Et dans les mots, voilà. Mm-hmm. Le corps et les mots.
Mm. Ben, le corps et les mots, alors peut-être tu peux nous lire un petit extrait là,
ouais,
du livre.
Livre
Le Taxi.
Ouais. Et donc du coup, effectivement, de fil en aiguille, s'est construit ce récit. Ouais.
Oui, on va en parler après la lecture.
Ouais.
J'ai des questions.
Okay. Je ne veux plus voir de corps. Je veux regarder l'homme invisible pour me sentir aussi légère que les objets qu'il porte. Pour ne plus avoir à porter de corps. Pour ne plus avoir à porter de corps. Pour ne plus voir le corps qui se porte. C'est magique. Un corps, c'est magique. Retrouver la magie du corps grâce à l'homme invisible. Voir quelqu'un qui ne porte pas son corps, c'est magique. Marie parle de son bébé. De son échographie. La nuit était tombée, les bougies allumées, Marie nous dit « Il a deux bras, deux jambes et on voit sa colonne vertébrale. Un petit corps transparent avec une très grosse tête. » On enchaîne la conversation, on est six, on se coupe la parole, il y a plein de phrases en diagonale, c'est un garçon ou une fille? On peut pas savoir encore. Ah, donc le sexe pousse en dernier? Ben non, il est déjà prédisposé à être un garçon ou une fille. Oui, mais si les membres sont déjà là, le sexe pousse en dernier? Non, il y a plein de choses encore qui doivent se former à l'intérieur. Oui, mais le sexe pousse. En tout cas, il fait déjà pipi. Ah bon? Où ça? Bah, dans le liquide amniotique. Ah, c'est un peu dégueulasse ça, non? Ah non, le pipi d'un bébé est très propre. Et caca? Quoi? Bah, est-ce qu'il fait caca? Bah non. Ah bon, pourquoi? Bah, je sais pas, moi, toi, quand t'étais alité, Aurélie, tu faisais pas caca? Me dit Marie. Ah bah, et là, je me retourne. Et je lui dis, mais Marie, évidemment que je faisais caca, sinon on meurt. Bah, comment tu faisais? Alité, t'avais pas de muscles. Et là, le fils d'un généraliste dit, mais si on fait pas caca, c'est l'occlusion intestinale. Alors c'est ça. Parce qu'on ne bouge pas, qu'on reste sur un lit blanc toute la journée et toute la nuit, ça veut dire qu'on ne vit pas, que le corps immobile devient aseptisé sous les regards. Le temps de mon alitement fut le temps le plus intense que j'ai jamais connu de toute ma vie, que j'ai jamais vécu de toute ma vie. Au début, pour moi, tout le personnel hospitalier était en toc. Du faux sang, fausses aiguilles. Je me rappelle même le moment où ils ont voulu faire ma trachéo. Un jeune homme est venu, il y avait l'infirmière vampire, Sue. L'homme avait un couteau. Je savais ce qu'il allait se passer. Il allait m'enfoncer le couteau dans la gorge pour me faire un trou. Je savais aussi que c'était pour mon bien. Il eut plusieurs hésitations en se disant qu'il ne pouvait pas le faire. Il donna le couteau à une femme, elle lui dit « Vas-y, c'est à toi de le faire, tu peux y arriver, allez, fonce !» Son temps d'hésitation marqua des pauses et m'habituait à l'idée de ce qui allait se produire. Il était jeune, comme moi. Je me demande si c'était pas l'interne. En général, c'est assez effrayant de se faire faire un truc pareil par quelqu'un qui a peur. Mais là, je pouvais m'identifier. Et puisqu'il fallait le faire, allez ! Heureusement que j'étais sous drogue hallucinogène. Je me demande même si le moment que j'ai vu ne m'est pas apparu après, à retardement des faits. Quand les médecins arrivaient, je savais qu'il fallait que je leur montre. Je ne savais pas très bien quoi. Que je m'insiste, ça c'était gagné, j'étais une vraie mannequin au lit. J'avais la ligne, je me sentais fondre à une vitesse. Je suis à l'hôpital enfermée dans un lit pour perdre du poids, pour participer à un concours de beauté. Ouais, ouais. J'allais représenter leur méthode de minceur fulgurante. Après cette époque épique de mes hallucinations, j'ai franchi le cap suivant. Il fallait remettre mes jambes qui fourmillaient d'électricité dans mes jambes physiques. Ça, ce sont les membres fantômes. Mes bras, c'était de vrais zébulons, ils voulaient rentrer partout, dans mon cou. Et je trépignais dans ma tête, j'essayais de rassembler tous ces membres. Je me concentrais à faire bouger quelque chose qui m'appartenait et qui pourtant ne m'écoutait pas. À force de faire ce qu'ils voulaient, je les perdais. « Allez, rentre dans ma jambe, toi. C'est le moment, ils sont là, les médecins, ils attendent. Allez !» Après, ils vont partir, ce sera fini, on ne pourra plus rien, obéissez-moi. Et je n'avais qu'une obsession, ne pas le décevoir. Un seul médecin existait pour moi, c'était le docteur Ming. Quand tout d'un coup, le chirurgien chinois me dit « Bravo !» Ah, je m'étais tellement focalisée à faire rentrer ma jambe archibaladeuse dans ma jambe inerte que le mouvement était passé à côté de moi. J'avais bougé d'un millième de millimètre le genou comme il me l'avait demandé, mais le mouvement s'était fait sans moi. Il m'avait dépassé. C'est contradictoire de vouloir faire bouger quelque chose et de s'apercevoir qu'on ne l'a pas fait exprès. Quant au caca, nous y arrivons. En fait, je ne savais pas que je pissais ni que je faisais caca. Infirme, qui ne jouit pas de toutes ses facultés physiques. C'était la nuit. L'infirmière me mit sur le côté et machinalement entama son business derrière moi. Au fur et à mesure qu'elle faisait les choses, elle me les comptait en même temps. Ça, c'était sympa. devant en moi le noir la nuit de l'hôpital. J'avais l'impression qu'elle avait éclairé la scène à la bougie. La lumière venait de derrière, tout venait de derrière. Réaction, paf ! Enlevez-moi cette étoile de mer du cul. Lucie alla chercher ma mère. Lucie, putain, qu'est-ce que tu fais ? Au secours ! Abasourdie en sourdine, je continuais à grincer mes mots qui me sifflaient entre les dents. Et elle, à me sauver. Et mon anus a gueulé dans ma bouche. Ça fait 4 jours que t'as pas été aux toilettes. Alors un petit suppositoire et là je t'aide à évacuer. C'était donc ça, l'explosion d'acide chlorhydrique qui m'a mis le feu. Heureusement que c'était Lucie qui s'y collait, parce que sinon, j'aurais eu encore plus peur et plus mal. Je sais pas si c'était possible, mais bon. J'étais hyper contente quand ce fut terminé. Je ne savais même pas que je faisais encore caca. Quand elle me parla de ma constipation, je découvrais mon corps au fur et à mesure. Petit aparté. Je viens de voir le film de Martin Scorsese, After Hours. À la fin du film, le héros finit enfermé dans du papier mâché ou du plâtre et seuls ses yeux bougent, même sa bouche est bouchée. Et des voleurs le prennent suite à un cambriolage et le mettent dans leur camion. Il est en position assise. Ils le prennent pour une sculpture. Le camion roule et la porte valdingue et il tombe. Il se casse et il s'en sort. La chute brise son carcan et il se met debout et marche. Alors déjà, le film est très angoissant. Le moment où il ne peut plus bouger ni parler, évidemment, ça m'a rappelé les moments où moi, j'étais allongée, collée sur le lit. Mais c'est à ce moment-là que j'ai demandé à Virginie, une amie, de me pousser pour que je tombe par terre et que je me remette à marcher. Quand Paul, le héros de After Hours, est tombé pour pouvoir bouger, c'est exactement ça. Quand on ne peut plus bouger, en tout cas pour moi, je voulais chuter pour me sortir de la paralysie, pour qu'elle se brise et que je bouge. Chute, mouvement. Chute, mouvement. On tombe, on se rattrape. On tombe, on se rattrape. C'est ça, marcher. C'est tomber pour avancer. C'est instinctif, alors. Le désir si grand projeté dans la chute, comme le seul espoir de remarcher. Je savais que c'était vital. Mais ce que Scorsese a fait dans son film, figer un personnage, le faire chuter pour qu'il se remette debout. C'est exactement ce que j'ai ressenti dans ce même ordre. Je ne bougeais pas, je voulais tomber au sol, comme Paul, sur le sol de la rue pour pouvoir marcher à nouveau. Comme lui quand il se relève. Mais heureusement que j'ai vécu l'accident pour comprendre ça. Parce que ce que Scorsese montre, c'est vachement angoissant. Enfermer des hommes dans des carcans, au secours!
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, vous écoutez Les Oreilles Libres et avec Aurélie Denis aujourd'hui. Merci beaucoup Aurélie pour cette lecture très émouvante et cette belle lecture aussi.
Merci.
Voilà. Donc, alors là tu racontes le post-accident en fait, tout ce qui s'est passé, comment tu as réfléchi, comment tu as expérimenté, comment ton corps, comment tu as apprivoisé finalement ton corps après l'accident. Ouais. Moi, je voudrais poser la question, une question un peu technique. Dans ce livre, en fait, vraiment technique, il n'y a pas de majuscule après les points. Certains mots, certaines phrases apparaissent en majuscule, gros caractères. On a le sentiment, on l'a bien vu dans cette belle lecture, que les paragraphes sont des réflexions qui en appellent d'autres, en fait. C'est un peu rhizomatique. Voilà. Et peux-tu nous parler un peu de ces choix?
Oui. Bah, c'est une pensée un peu libre. Je vais d'une association, c'est par association d'idées. Et effectivement, au moment où j'écrivais, je ne mettais pas de majuscule. C'est comme une respiration, un flux continu qui ne s'arrêtait pas. Et comme mon ordinateur à ce moment-là ne mettait pas de majuscule, j'ai pas eu le réflexe, parce que c'est comme si j'avais pas eu le temps. Alors j'avais le temps, j'ai eu le temps de mettre les points, mais j'avais pas le temps de mettre les majuscules. Et par contre, quand un mot était très fort pour moi, je le mettais en majuscule. Donc effectivement, c'est comme si ce flux, du coup, les lecteurs vont, je pense, trouver leur propre rythme, en fait. Parce qu'il n'y a pas de butée. Il y a les points, mais ils ne sont pas marqués par les majuscules. Donc, il n'y a pas vraiment de butée. C'est comme s'il n'y avait pas de fin et de commencement. Et chronologiquement aussi, dans le livre, je fais constamment des allers-retours entre le passé, et ce qui m'est arrivé, et le présent, comment je suis maintenant. Parce que je l'ai écrit post-accident, effectivement, entre 2008 et 2010. Enfin, non, 2007 et 2009 plutôt. Okay. Et donc, je pense que cette temporalité aussi, d'avant, après, ou alors on ne sait plus très bien, même dans le texte que je viens de lire, je ne savais plus très bien si le mouvement s'était fait ou si j'avais vécu les choses au moment où je les vivais, ou alors si les choses m'arrivaient après les avoir vécues à cause des médicaments hallucinogènes. Donc il y a ce rapport aussi au temps. Ouais.
Ouais. On reparlera du temps avec ouais. La performance, etc. En fait, dans l'extrait là que tu viens de lire, on voit bien en fait, tu parles de la dame, de la Marie
oui.
qui attend un bébé.
Ouais, ouais.
Y a ton corps avec le caca.
Ouais.
Donc en fait, le corps, c'est le lieu de la discussion avec les autres.
Oui.
C'est le lieu de la reconnaissance de toi, des autres. Mmh. C'est l'observation. C'est l'expérimentation, c'est la découverte, le renouveau. Je me trompe là ?
Oui, non, bien sûr, ouais.
Voilà.
Ouais.
Et je veux ajouter une autre. Donc, ce qui m'a frappée aussi dans d'autres, par ailleurs, dans le livre, c'est qu'il y a vraiment une grande importance, une grande évocation de la sexualité très vivante. J'ai eu une impression d'une volonté de vie très forte.
Oui. Alors. Oui, alors cette sexualité, c'est alors que de 2005 à, enfin, pendant 4 ans post-accident, j'avais pas du tout de relation sexuelle. Effectivement, je parle de pénétration dans le livre, mais c'est très organique en fait. C'est parce que c'est lié au corps, en fait.
Voilà.
C'est lié au corps. Je pense que c'est ça. Hein. Et il y a Cronenberg qui disait « Words become flesh ». Les mots deviennent chair. Donc, en fait, je pense que c'est plus ça. Les mots deviennent chair. Et du coup, ouais. Alors, est-ce que c'est la sexualité ? Je ne sais pas. Je pense que ça fait partie du corps, tout ça.
Okay. Ouais. Moi, c'était vraiment la question de la vie, de la force vitale, en fait, qui m'est très apparue, en
ouais,
fait.
Oui, c'est ça. Ouais.
Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de « ouais, je suis là et j'ai envie de vivre, quoi ». Enfin, ça m'est apparu très fort dans ce livre. Est-ce que je me trompe
ou... Non. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça, mais c'était malgré moi. C'est-à-dire que, oui. Oui, alors, et... Oui, je sais pas, comme je découvrais peut-être tout, c'est-à-dire que oui, avec un autre corps, j'étais projetée, enfin projetée. Je me retrouvais avec mes amis, je rencontrais d'autres gens qui me connaissaient pas avant. Peut-être que ce nouveau rapport à la société aussi. J'avais soif, quoi. La confrontation était permanente, en fait. Le regard des autres était toujours là. Et donc, forcément, il y avait une réaction de ma part qui était très vive, c'est sûr. Parce que ça me faisait bouger aussi à l'intérieur. Et c'est ce nouveau regard que les autres généraient sur moi, quand je dis nouveau, parce que le fait d'habiter un corps différent et de se mouvoir différemment, les gens ne sont pas habitués à ça. ça les fait sortir de leur de ce qu'ils connaissent en fait. C'est un corps qui a du mal à marcher, etc. Donc il y en a, ils vont surtout repérer la difficulté. Et donc ça va générer des choses différentes chez chacun. Donc forcément, moi je réagis en fonction des rencontres que je fais. Et je pense que c'est ça qui me stimule. Mmh. Ouais.
D'accord. Il y a eu donc les mots écrits, l'écrit, mmh. le dire, et ensuite le dessin. Comment tu es venue alors au dessin
Ouais. Ouais. Alors bon, déjà aux Arts Déco, je dessinais aussi beaucoup. Et puis à l'hôpital, avant d'écrire, je dessinais aussi. Le dessin, j'avais besoin de me représenter le corps dans l'espace. Et après l'avoir écrit ou décrit ou décrié ou crié, j'avais besoin d'une visualisation, mais sans le savoir. Hein, tout ça, c'est pas des choses qu'on projette ou qu'on c'est pas, ça se fait encore une fois organiquement, naturellement. Il faut juste, enfin, en suivant ce qui est devant soi, quoi. La représentation du corps dans l'espace. Alors, j'ai rencontré une amie, j'ai rencontré une fille qui est devenue mon amie et qui m'a donné des cours de dessin. Je lui ai demandé, j'avais cette envie de dessiner. Et donc, j'ai dessiné avec mon bras et ma main qui a une motricité lente, plus lente que mon bras et ma main gauche, qui est quasi dans la norme, quoi. Et cette amie-là était une fanatique de la ligne. Et donc, elle me demandait de tracer une ligne à main levée, une ligne droite. Et surtout, ce qui était vraiment génial, c'est qu'elle me demandait... J'allais trop vite. Elle me demandait de ralentir. Alors que tous mes kinés me disaient « marche plus vite » pour enlever le poids de ton corps et tout. Alors avant, je marchais plus vite, hein, j'essayais et tout, mais ma marche était de plus en plus saccadée. Hein. Et elle me dit « ralentis ». Mais c'est génial. Premier changement de vitesse, quoi. Et donc, je ralentis. Et en plus, elle me demandait de tracer la ligne hyper légère, de manière très légère sur la feuille. Donc, on la voyait à peine. C'est comme une esquisse de la ligne. Et donc, j'appuyais à peine sur le papier. Et je sentais mes doigts sur le crayon. Je travaillais l'appui des doigts sur le crayon. Je sentais mon poignet, le coude, l'épaule, parce qu'il faut, il faut tout... Quand on ralentit, on sent beaucoup plus le corps. Et puis, il faut que tout soit léger. Donc, du coup, ça rajoute du poids sur les articulations parce qu'on maintient le crayon en suspension. Et en traçant cette ligne entre deux points, je visualisais pour arriver au bout de la ligne, un peu comme une danseuse qui visualise son saut avant de le faire. Et puis, comme ça, elle le fait bien ou elle le fait mieux. Et ce travail de visualisation m'a beaucoup aidée, donc il s'est fait malgré moi, encore une fois. Et après avoir tracé cette ligne de manière très très légère, il fallait que je repasse par-dessus pour trouver la ligne juste. Parce que même si c'était très lent, elle n'était jamais droite, mais il fallait vraiment qu'elle soit bien droite. S'il y avait une petite bosse, tout ça, il fallait la rectifier. Et donc parmi toute cette ligne, toutes ces lignes qui ressemblaient un peu à des cheveux, quoi. Il fallait trouver la bonne ligne parmi toutes ces lignes et la foncer pour bien comprendre que c'était cette ligne-là qui allait me servir d'appui après pour construire la perspective et les objets que j'allais pouvoir dessiner en perspective. Donc pendant un an, je me suis exercée à tracer des lignes à main levée droite, verticale, horizontale. Et ce qui est super aussi, c'est que quand on trace cette ligne-là, une ligne comme ça sur un papier, avec c'est à la main, tout ça,
quand il y a des bosses sur les autres lignes, parce que bon, quelquefois, parce qu'il faut que le geste soit continu, il faut qu'il soit constant, puis quelquefois, ça saute un peu, quoi. Et ben, pour aller entre les bosses, mon ami me disait, imagine-toi dans une forêt, et tu traces ta trajectoire, et les bosses sont des arbres, et il faut que tu passes entre les arbres pour vraiment être sur ta trajectoire. Voilà, et du coup, j'ai dessiné plein d'objets, je suis devenue une véritable machine à tisser, des lignes droites, et j'ai dessiné plein d'objets hyper précis, hyper... ma table, là, inclinée comme une table d'archi, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que cette projection mentale de la ligne s'est étendue à la marche et à mon corps. Ouais. Et quand je marchais, ce que j'avais senti, pressenti dans mon poignet, mon coude et mon épaule, s'est étendu à ma hanche, mon genou et mon pied, et au corps entier. Et quand je marchais, je visualisais mes articulations, mais sans très bien savoir ce qui se passait non plus. Et j'étais dans le pré-mouvement déjà. Oh oui. Et les jambes, c'est-à-dire que je voyais mes jambes marcher avant moi.
Et c'est ce qui a amené à la danse.
Oui, voilà. Et surtout, ce qui est particulier, c'est que... donc ça, c'est la découverte de la proprioception, la perception de soi, la perception de ses mouvements internes. Et ce qui est hyper drôle, entre guillemets, c'est que quand j'étais à l'hôpital, on me disait « vous avez un trouble de la sensibilité profonde ». Alors moi, je ne comprenais rien à cette phrase. Je me disais, je m'imaginais dans une mer profonde, dans des eaux E-A-U-X, profond, où je voyais rien, parce que trouble de la sensibilité profonde. Mais alors, tous les mots étaient agglutinés, cette phrase était complètement serrée, voilà. Et finalement, en fait, c'est parce que je ne savais pas où étaient mes articulations, je ne sentais pas, c'est comme la première fois que je me suis levée, mes pieds ne sentaient pas le sol. Si les pieds ne sentent pas le sol, on ne peut pas marcher. Donc ça, c'est la proprioception. Et du coup, je suis allée vers un manque. Et j'ai compris cette phrase des années après. Et je me suis dit, waouh, ok. Parce que les médecins, ils ne vous expliquent pas, hein. Et il parle à toute vitesse. C'est pour ça que tout était agglutiné dans cette phrase. Mmh. C'est ça.
On va écouter un morceau, un extrait. On va le CD de Corps Bruit,
oui.
Un peu de musique.
Oui. Ouais.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 FM, radio-libertaire.net, partout dans le monde. Nous sommes avec Aurélie Denis. Aujourd'hui, nous venons d'écouter la piste 4 du trio Corbruit. Qu'est-ce que Corbruit, Aurélie ?
Corbruit est un projet performatif, évolutif, pour une danseuse et deux musiciens. Xavier Mussa, Nils Mestre, Aurélie Denis. Xavier travaille avec sa guitare qu'il nomme guitare étendue. Et Nils Mestre joue de la guitare avec des baguettes de batterie, de la timbale, du xylophone, des chopsticks et de la trompette préparée, de la voix aussi, coquillage, conque, percussion. Et donc, on travaille. En fait, la musique va générer des envies de mouvement dans mon corps, des mouvements en fonction de la musique. Et ces mouvements vont générer des émotions. Alors, émotion. L'émotion va faire surgir. Qu'est-ce que l'émotion va faire surgir comme mouvement? L'émotion va déclencher des états de corps. Et l'univers sonore de Xavier Mussa, c'est comme un bain de musique. C'est comme quand on sent une fleur, par exemple, et tout le corps suit la sensation que procure cette fleur, cette odeur. Si on l'aime, si on ne l'aime pas. Pour le son, c'est la même chose. La performance corps-bruit aussi entre performance et théâtre. C'est-à-dire que cette émotion qui va déclencher des états de corps, le visage va en exprimer la figure et le visage va être expressif ou relâché. Il va exprimer, donc c'est mon visage en fait quand je danse, il va exprimer une théâtralité. Et par d'autres moments, le corps va reprendre le dessus. Et là, à ce moment-là, je suis extrêmement concentrée dans les mouvements, dans le fait de se relever, le fait de s'accroupir, etc., qui prend énormément de concentration ou même d'autres mouvements quand j'accélère. Et là, c'est l'excarnation, je dirais. C'est-à-dire que je reviens au corps, j'enlève le visage, j'enlève la figure, le visage, et je reviens au corps, à l'essence et à la motricité pure. Voilà. Et Xavier... son son est... Il me fait aller dans des espaces et dans des endroits de mon corps pour bouger. En fait, je me sens tellement bien dedans, dans cet univers sonore, que, que je découvre, j'ai découvert en travaillant avec lui, des endroits où je peux bouger. Et avec Nils aussi, ouais, ça, voilà, ça génère des mouvements qui sont possibles que quand je travaille avec eux, tous les trois, voilà, c'est ça. À ce moment-là, je faisais plein de stages au théâtre du mouvement, et donc j'ai pu trouver d'autres corps, expérimenter mon corps différemment, en ralentissant le corps entier, et trouver d'autres points d'appui. Et du coup, j'ai pu décomposer le mouvement en ralentissant dans les stages de Yves Marc. Et grâce à ce ralentissement, du coup, qui n'était plus que lié à la main, mais qui s'est fait dans le corps entier, et ben, en décomposant les mouvements, au bout de quelques années, 2 ans, j'ai pu, donc comme un musicien qui fait ses gammes, hein, il ralentit, il décompose, il apprend et tout, j'ai pu comprendre le corps dans l'espace, les mouvements, et j'ai pu après accélérer sans... Donc là, en parlant de vitesse, je ralentissais pour pouvoir après accélérer, parce que j'avais bien enregistré les mouvements dans mon corps, et accélérer sans tomber, et frôler la chute, et jouer avec l'équilibre instable, et jouer avec la chute. Et ça m'intéressait beaucoup, parce que je pouvais jouer avec plusieurs corps différents. C'est-à-dire que j'avais un corps qui devenait fluide, alors que... souvent, quand les gens me voient marcher, le mouvement est coupé, le geste est coupé, un peu comme un jump cut à la Godard. C'est coupé, il se fait pas en continu. C'est pour ça que j'adore l'image de l'ellipse, parce que l'ellipse, la définition de l'ellipse, c'est un rond tronqué. Il manque quelque chose. C'est comme s'il était pas parfait, quoi. Et au niveau de l'amplitude, effectivement, quand je marche, les mouvements se sautent, en fait. Le mouvement ne se finit pas, quoi. Il est coupé. Et en ralentissant, j'ai pu comprendre que je pouvais détendre mes muscles et avoir une fluidité. Parce que la paralysie, c'est ça, c'est l'absence de décontraction musculaire. C'est quand on ne peut pas décontracter un muscle, en fait. C'est ça qui nous permet de bouger. La contraction, mais la décontraction aussi. Et voilà, et donc j'ai rencontré la décontraction musculaire grâce au ralentissement qui m'a amené de la fluidité. Et quand j'accélérais, bah forcément, les mouvements saccadés revenaient. Parce que j'allais très vite et du coup les muscles se crispaient à l'intérieur et ça faisait des glitches.
C'est quoi des glitches ?
Alors des glitches, c'est comme des sauts neurologiques. C'est comme des en vidéo tout ça, c'est des grésillements ou des parasites ou quelque chose qui vient perturber en fait. Et ce sont des réflexes involontaires qu'on ne maîtrise pas. Et donc, d'un coup, la jambe tremble, se met à trembler parce que le muscle est sursollicité, parce qu'on va trop vite pour lui, donc il n'a pas le temps de se détendre. Et du coup, il grésille, il tremble. Et du coup, dans ma danse, eh ben, j'incorpore ça, ça devient une esthétique. Et pour passer d'un mouvement à un autre, quand il y a un glitch qui apparaît, eh ben je fais avec et je détends autre chose dans le corps. Et c'est ça qui fait la chorégraphie sur le moment. C'est-à-dire que je suis les trajectoires de mon corps en fonction des vitesses que j'adopte. Mmh. Voilà. Et donc, Corps Bruit, à la base, avec Xavier Mussa, je voulais qu'il joue de la guitare tellement fort, avec les baffes et tout, tellement fort que le son me déséquilibre. Que qu'on sente, je voulais rester debout devant un public, et qu'on sente que j'étais au bord de la chute et que c'était les vibrations du son qui venaient déséquilibrer mon corps. Parce que comme justement j'avais vachement travaillé sur l'équilibre, et comme je sentais que je devenais un équilibre instable mais avec lequel je pouvais jouer, bah c'était ça que j'avais proposé. Du coup, ça l'avait vachement
motivée. Et puis, ça, c'est devenu autre chose, finalement. Avec ces sons, ça a généré des mouvements. Mes mouvements ont généré des sons. Et c'est devenu un dialogue. Et quand Nils est rentré, quand Xavier a demandé à Nils de travailler avec nous...
Nils Mestre.
Oui, exactement. Ouais, Nils Mestre. Eh ben, c'est... Et Nils travaillait aussi avec des danseurs buto. Donc, il avait il regardait beaucoup les mouvements, il avait cette sensibilité, il accompagne, il réagit, voilà. Et avec Xavier, le trio, bah, il y avait un vrai dialogue, et c'était super, quoi. Dès qu'il y avait un mouvement qui raccourcissait, Nils resserrait son truc, ou enfin il était vraiment à l'affût des moindres déséquilibres, justement, et ou de la lenteur, et Xavier aussi, quoi. C'était voilà.
Nous allons maintenant écouter un extrait avec Séverine Ballon. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Nous sommes avec Aurélie Denis. Donc Aurélie, dans le duo avec Séverine Ballon, LIF, il y a la feuille verticale. Qu'est-ce que cette feuille ? Moi, ça me fait penser à un écran, ça me fait penser à la peau, c'est-à-dire l'interface entre nous et les autres. Vraiment, elle fait rêver, cette feuille. Elle parle beaucoup aussi avec le rapport à la musique, au mouvement, au dessin. Alors, qu'est-ce que c'est cette feuille ?
L'IF est une performance musicale et chorégraphique. Un duo entre moi et Séverine Ballon au violoncelle, à la Galerie du Haut-Pavé. Alors oui, effectivement, la feuille est un écran. Oui, ça c'est ouais, tout à fait. Je dirais qu'elle sert, j'ai ce mot en tête, rétroprojection. Parce qu'en fait, je suis derrière la feuille et je dessine, je fais des traits au pinceau. La feuille est verticale, elle est très, très haute, hein, elle va jusqu'au plafond de la galerie. Et y a un dispositif lumineux en bas qui révèle la matière de la feuille. Et donc, on est dans le micro-mouvement. La lumière fait vibrer la matière de la feuille. On dit, en fait, quand la feuille n'est pas éclairée, elle est plate, il ne se passe rien. On pense qu'elle ne bouge pas. Mais une fois que le dispositif lumineux est en place et qu'il éclaire la feuille, on assiste à des comme des tremblements perpétuels, des vibrations perpétuelles de la feuille, comme si elle vivait toujours, et en micro-mouvement, en fait. Voilà. Donc, ce qui est imperceptible sans la lumière et qui devient perceptible avec, c'est cet état de la feuille, un peu comme l'intérieur d'un corps, peut-être aussi, et tout ce qu'on ne voit pas. Et j'associe ça à des micro-mouvements parce que voilà. Quand je suis derrière et que je commence à dessiner, enfin à faire des traits avec les pinceaux, différents pinceaux et avec de l'eau, je dessine des ombres dans la lumière car à chaque trait, je pousse légèrement la feuille et grâce au dispositif lumineux, chaque trait... avec un point d'appui différent, va déclencher une plage d'ombre. Et donc, c'est aussi un travail sur les points d'appui. Voilà. Et la feuille devient une sculpture grâce à ces plages d'ombre et au mouvement, elle bouge. Hein, je la fais bouger avec les pinceaux, donc elle danse avec moi. Et selon la quantité d'eau... déposé et un temps de séchage variable, le papier va se rétracter par endroits, ce qui va créer un réseau de trajectoires. Et suivant ce dessin, je dirais, la feuille va se plier sous mes mains, parce qu'à un moment donné, je passe mes mains et je vais la plier. Et donc, je l'accompagne dans ses plis et on ne sait plus qui dirige qui. On fait un... Et on ne sait plus qui manipule qui. C'est-à-dire que moi, je suis à son écoute. Je la plie en fonction de ce réseau, de toutes ces trajectoires dessinées en amont, d'eau. Et en même temps, il y a une interaction entre moi et elle. Donc, on danse ensemble, en fait. Voilà. Et la feuille... prend son autonomie et a son mouvement propre. Et alors, ce qui m'a vraiment énormément plu, c'est que à la fin de la performance, et c'est sûrement ce qu'on va écouter avec Séverine Ballon, le son de Séverine, la fin de la performance, la feuille... Je la manipule jusqu'à en faire un objet sonore, un instrument de son. Et c'est comme si elle avait capté l'espace sonore de la galerie. Parce que la feuille enregistre, le papier enregistre toute la réverbe de la galerie. C'est comme si l'espace avait lieu. Ou c'est comme si l'espace de la galerie avait un lieu sonore. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout. Et ce son-là de la feuille n'est pas reproductible Et c'est ce que j'aime dans la performance, hein, c'est de travailler avec le lieu. On découvre, il y a un dispositif au départ et on découvre dans l'instant, c'est ce que Bachelard appelle l'intuition de l'instant. Si on suit un peu les... et on est à l'écoute, on découvre des choses. Et aussi, ce qui était super, donc en fait, pour moi, à la fin de toutes ces performances à la Galerie du Haut-Pavé, Le Souffle Court, on a tous, enfin, les artistes ont fait des performances, j'ai fait des performances, mais à la fin, c'est la galerie qui a, c'est le lieu qui a parlé. Et il y avait un autre écran, pour reprendre ce que tu disais, Patricia, un autre écran qui intervenait, parce que effectivement, la feuille et le dispositif lumineux, c'était dans le noir, donc la galerie était dans le noir, mais à côté de la feuille, il y a une vitre où, en fait, là, et on voit la rue. Donc même si c'était la nuit, le soir, il y a le lampadaire, il y a les phares de voiture qui s'invitent dans la galerie, dont l'extérieur s'invite dans la galerie, et les lumières de l'extérieur viennent éclairer la feuille et se proposent d'autres lumières. Donc la galerie vit, c'est comme si elle avait sa propre vie aussi, grâce à cet écran, effectivement, de la feuille qui captait la lumière et le son de la réverb de la galerie. Voilà. Et Séverine a travaillé avec tout ça. Elle a accompagné mes mouvements et avec le violoncelle, c'était magnifique. Magnifique sa prestation.
On écoute un extrait de la performance Leaf de Séverine Ballon et Aurélie Denis à la Galerie du Haut-Pavé. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, les oreilles libres avec Aurélie Denis aujourd'hui dans nos studios. Alors Aurélie, Aurélie, juste une précision. Cette exposition, j'ai retrouvé, c'était en 2022, du 18 janvier au 19 février 2022, à la Galerie du Haut-Pavé. Mmh. L'expo s'appelait Le Souffle Court.
Oui, c'est ça.
Voilà. Court, oui. Jeu de mots.
Oui, oui. Tu veux que j'en parle peut-être ?
Oui.
Ok. Oui, le souffle court. Bah, déjà, il y a eu toute la période du Covid. Je pense que c'est ça qui m'a aussi beaucoup travaillé et beaucoup énervé. Bon. Et le souffle court, c'est du verbe courir et effectivement aussi du court, C-O-U-R-T. Alors, j'ai appelé ça comme ça parce que moi, j'étais moi-même à bout de souffle. Il fallait que je fasse donc une exposition, tout ça, mais j'étais épuisée, quoi. Et je me suis dit, waouh, bon. Et donc, c'était vraiment un état. Et il fallait que je trouve un second souffle, un peu comme les sportifs aussi, ou quand je nage, quand je fais de la natation, au début c'est dur, et puis après je trouve mon rythme, il y a une constance, et puis après il y a un deuxième souffle, il y a une espèce d'énergie que tu vas peut-être trouver aussi, Christophe, dans la journée aujourd'hui. voilà, il y a voilà, le corps a des ressources. J'avais le désir pour cette exposition de mêler dessin, écriture, toutes les disciplines, enfin que ce soit sans frontières déjà, ouais, entre les différentes disciplines, et je voulais que ce soit joyeux et qu'il y ait que ce soit un peu festif et qu'il y ait du mouvement, et donc j'ai invité des artistes en lien avec mon travail, en résonance, en dialogue. Je les ai invités le temps d'un week-end et puis sur un temps plus long aussi à venir faire des performances. Donc j'ai décroché des choses. Je voulais que l'expo soit mouvante, que ce soit pas figé. Et je voulais aussi qu'il y ait de la surprise, de l'inattendu, de la vie, quoi. Et donc, Simonetta Parisi et Jacques Pochat sont venus faire un très beau duo en lien avec mes encres de Chine. Oui, parce que ce que j'ai pas dit, effectivement, par rapport au trait, au ralentissement du geste et à la projection mentale et la visualisation, c'est que quand je marchais, et que je visualisais mes mouvements ou que mes mouvements se visualisaient, qu'il y avait une projection effectivement à l'intérieur de moi. Et c'est ça, hein, pour reparler effectivement de cinéma ou de projection de feuilles. La projection se faisait à l'intérieur de moi, et donc les mouvements, je m'envahissais en fait, donc comme des mouvements fantômes, ce que j'avais pu ressentir en réanimation quand je bougeais pas. Effectivement, des sensations extracorporelles. Sauf que là, ça venait, c'était à partir d'un travail sur la ligne et tout ça. Et ces mouvements m'aidaient à marcher, finalement. Parce que quand on visualise comme la danseuse avant son saut et tout ça, il y a une justesse, ça aide. Du coup, il y a le pré-mouvement, le post-mouvement et tout. Mais c'était des mouvements qui se superposaient, qui ne s'arrêtaient plus, qui étaient toujours en marche, en fait.
Comme... Là, tu parles des encres de Chine.
Ouais, oui, exactement, c'est ça. Comme ma marche, c'était toujours... Et donc, il me parasitait, et il m'aidait à marcher, c'était super, je les découvrais, parce qu'ils se sont imposés à moi. Et quand je rentrais chez moi, il fallait que je m'en débarrasse. Parce qu'ils étaient encore là, ils continuaient à circuler. Moi, je disais, mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? Donc, il fallait que je les dessine, que je les couche, que je les pose pour que eux se reposent là. Il fallait que je les pose sur du papier.
Et donc là, j'étais en train de travailler une autre technique, l'encre de Chine avec le bambou. Et j'étais arrivée à une fluidité dans cette technique-là. Et alors, le contraste avec le crayon dessiné, le côté laborieux, la géométrie dans l'espace, etc., très lent et tout, bah là, c'était un geste très rapide. Et j'ai pu, effectivement, évacuer et me débarrasser de ces mouvements en les dessinant de manière très rapide. Et j'ai fait des centaines et des centaines d'encres de Chine, et j'en ai gardé après en quelques-unes, et je les ai exposées à la galerie du Haut Pavé, donc c'est ce que j'appelle les mouvements imaginés. Et c'était un peu entre, en fait, ils étaient tous dans un cadre, il y en avait une soixantaine, et je les avais disposés comme ça en rectangle, et de manière très proche les uns des autres. Et donc ça faisait comme ça il y avait un côté sculptural.
Il y avait sur quelques encres de Chine, il y avait des petits mots écrits. Ouais. C'était très drôle, en fait, je trouvais ça. Ça apportait C'est qui? C'est toi qui parles? C'est le mouvement? C'est eux qui parlent? Enfin, c'est les traits qui parlent? C'est toi qui parles? C'est qui, en fait?
Ouais, alors il y a eu plusieurs choses. J'ai écouté de la musique expérimentale à ce moment-là. Donc j'ai fait ce travail en 2011, juste après avoir fini le livre Le Taxi, édité chez Sperluette. J'ai écouté beaucoup de musique issue de Rock in Opposition, donc Robert Wyatt, tout ça. Et donc cette énergie, ce rythme m'inspirait, et je reprenais des mots que j'entendais. Et en même temps, effectivement, je trouve que il y a quelque chose qui se passe entre la langue et la main, la langue et les doigts. Et la pensée, effectivement, et la pensée et la main. Et je trouve que la main active la pensée. Et chez moi, c'est des mots qui sortent. Mais des mots qui font image. Donc les mots peuvent se transformer en dessin. Et le dessin peut donner, par association d'idées aussi, comme dans l'écriture, peut donner forme à des mots. Donc il y avait plusieurs sources à ce moment-là.
Ouais. Ça va se terminer bientôt. Mmh. On va résumer qui était à cette expo du Haut Pavé. Quels sont les artistes qui ont participé?
Ouais. Donc Simonetta Parisi, Jacques Pochat, en dialogue avec les encres de Chine, l'archer de Simonetta, qui entrait en résonance avec les traits des encres derrière. Enfin, il y avait vraiment. Et puis à un moment donné, elle parle aussi. Enfin, c'était super. Et puis Jacques Pochat qui utilise des objets aussi avec son saxophone. Enfin, c'était et après, donc dans la continuité, il y a eu la performance avec Xavier Mussat.
Thank you.
La performance avec Xavier Mussa.
Oui. Alors avec Xavier, ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble selon un principe d'écoute et de regard réciproque. Et pour le souffle court, on a proposé une performance. Xavier improvise une pièce sonore de 3 heures. Et moi, j'ai investi l'espace de la galerie j'ai modifié l'espace par une installation in situ d'une grande feuille de bois courbe qui ondule de gauche à droite, fabriquée sur mesure à l'échelle de mon corps et sur laquelle je navigue et je danse et je peins. Donc là encore, le son de Xavier m'accompagne et je réagis aussi à son son. Et il y a un véritable échange, comme dans Corps Bruit, comme dans le trio. Pour cette performance, j'ai fait appel à la proprioception, la perception profonde des différentes parties du corps et de leurs relations, pour me situer dans cet espace, évaluer le volume, l'échelle et la texture de la structure en bois. Donc au début, je danse en caressant la feuille pour pouvoir me situer sensoriellement par rapport à elle. Je suis dos au public, ça c'est important aussi, parce que on ne me voit que de dos et c'est un rapport différent au public et je suis face à la feuille et peu à peu je rentre dans un processus de dessin écriture, c'est-à-dire que le ressenti de mes mouvements et de la musique vont faire générer des mots. Par exemple, on ne peut pas faire à deux mains ce qu'on peut faire à une main. Voilà, donc des expériences comme ça de corps que je vis sur l'instant, ouais, qui vont se transformer en phrases, quoi.
Ah, ok.
Des sensations physiques ou... Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette performance, c'est que elle dure longtemps. Xavier Mussa a fait une pièce qui a duré 3 heures. Et moi, j'ai effectivement peint et dessiné pendant très longtemps aussi. C'était une tentative d'étirement du temps scénique et du langage. La recherche d'un souffle long. C'est... Mmh. Voilà.
Il y avait qui encore dans ce... Il y avait... Vite.
Oui, oui. Oui, oui. Donc, la performance avec Xavier Mussa. Le lendemain, il y a eu Magali Abelspi et Kessap Tuyul de la formation, leur duo qui s'appelle MACT Sono, M-A-K-T, plus loin, Sono. Je vous invite à aller regarder leur travail, c'est super ce qu'ils font. Et donc, elle travaille avec des objets, la musique, c'était au sol. Et plastiquement, elle arrivait avec du scotch bleu et elle a tracé des lignes au sol. Et ça reprenait complètement l'esthétique de ce que j'avais fait la veille, mais en réponse. Et là, pour moi, ça a été de l'inattendu et d'une magie. C'était à regarder, c'était génial parce qu'elle ne savait pas du tout... qu'est-ce qui s'était passé la veille. Et pourtant, il y avait comme ça un prolongement. Donc, comme d'un jour à l'autre, c'est pas le même jour, mais il y a quelque chose qui se prolonge. Et entre les êtres humains aussi. C'est comme Frida Kahlo qui disait, on est tous un. Et ça vraiment, j'ai ressenti ça comme une espèce de transmission, comme ça. Et c'est ça aussi la performance, c'est le lieu dans lequel on le fait et tout. Enfin, c'est faut avoir des antennes, quoi. Elle était connectée et Kessap Tuyul était connectée aussi, bien sûr. Enfin voilà. Et donc après, ensuite, le lendemain, j'ai fait une performance poésie sonore, donc où je reprenais des mots. Et où je reprenais la feuille aussi et des mots que j'avais inscrits la veille sur la structure en bois donc il y avait Laurent Sériès et Niels Mestre. Voilà, et puis après c'était la performance avec Séverine Ballon, je crois.
Ouais.
C'est ça, hein.
Ouais.
Voilà.
Ok, ben c'est en fait c'est très important de parler de cette expo à la Galerie des Hauts Pavés, parce qu'on voit bien tout ce que tu visites, tout ce que tu explores, les mots, le dire des mots, le dessin, le mouvement, tout ça dans la performance et avec le son qui est là. Et donc Aurélie. Quels sont tes projets dans un avenir proche ou plus lointain ?
Oui, c'est ça. Alors, ce que j'ai découvert avec la performance avec Séverine, le son du papier, le fait que je sente pas que je sente pas le matériau, mais que le son guide mes mouvements et m'aide à situer l'objet dans l'espace. Bah, du coup, j'avais envie de faire une cartographie comme ça de la main droite. Avec des objets et de repérer le mouvement grâce au son, donc et de travailler la mobilité de l'objet et de la main avec le son comme repère. Donc c'est comme ma main est aveugle, donc une personne aveugle va se repérer au toucher, voilà. Et ben moi ma main est aveugle et je vais me repérer. Je vais repérer mon toucher au son. Voilà. Et donc, maintenant, alors qu'avant, je compensais beaucoup avec la vue, avant de rentrer dans mes perceptions internes, et même après, hein, quand même, bah là, je peux aller vers le son pour continuer à explorer ce manque. Voilà, donc il y a ça. Et puis il y a aussi, je voulais faire un documentaire sur le sexe et le handicap. Enfin, je suis en train de travailler dessus. Voilà. Parce que, effectivement, quand on a un handicap, les zones érogènes se déplacent. Et j'ai trouvé ça. Et quand on fait l'amour avec un décor différent, bah, ça devient chorégraphique, ça devient de la danse, il faut se déplacer, ou alors, je sais pas, moi, par exemple, quand je fais l'amour et que j'ai un orgasme, j'ai la jambe qui se lève toute seule. Donc, ça, pour moi, ça devient un élément chorégraphique, quoi. C'est la jambe, elle se lève lentement, toute seule, et je peux pas l'arrêter, et personne peut l'arrêter, voilà. Ou alors, il faut que quelqu'un me tienne mon bras, ou ça dépend dans quelle position, mais du coup, le partenaire aide, et du coup, il place ses mains dans telle position et tout. Et ça crée des relations entre les corps, qui pour moi, peuvent se rapprocher de la danse, et j'avais envie de filmer ces corps-là, en train de faire l'amour, voilà, mais de manière plastique et aussi mêlée d'interviews qui parlent du corps. Par exemple, j'ai rencontré sur OkCupid un mec en fauteuil roulant. Je lui avais pas parlé de mon handicap. Et mon frère avait vu sa photo la veille. Il m'a dit, mais tu lui as pas dit que tu avais un handicap? Lui, il montre qu'il est en fauteuil. Je dis, bah non, et tout. Il me dit, mais Aurélie, souvent, les mecs en fauteuil, ils veulent des nanas valides. Je dis, ah bon, tu crois? Bon. Donc, le lendemain, je le vois et tout. Et effectivement, le fait que je marche, enfin, que j'ai un handicap et tout, ça a l'air de le gêner. Moi, je me dis, bah... Ok, et donc on rentre dans le resto. Donc lui, le bar, lui, il est hyper fluide avec son fauteuil et tout. Ça m'impressionne toujours quand on parle d'extension. Je trouve ça hyper beau. Et du coup, il me dit, c'est quoi ton carton? Alors je suis ah bah, putain, ok. Donc je parle de mon accident. Lui, il me parle du sien. Donc direct, il y a un miroir, il y a une projection justement qui est pas effectivement top. Mais par contre, comme il a fait vachement de compètes quand il était jeune de ski en e-sport, eh ben il a beaucoup voyagé et il a découvert sa sexualité avec d'autres personnes handicapées. Et il me dit, parce que moi je voulais vivre une expérience sexuelle aussi avec des différents corps, voilà, et trouver mon corps, voilà, un peu comme le projet que j'ai dans ce documentaire, quoi. Et du coup, lui, il me dit, ah, mais moi j'aime pas faire l'amour avec des handicapés. Je suis, ah bon, mais pourquoi? Il me dit, bah, je sais pas, j'ai fait l'amour avec une aveugle, ça m'a pas plu, j'ai fait l'amour avec une nana amputée d'une jambe, ça m'a pas plu. Je fais, ah bon, ok. Et là, vraiment, je voulais creuser ça, quoi. Je voulais creuser. Donc ce mec, je vais le recontacter et je vais l'interviewer parce que je trouve ça fascinant. Voilà.
Ben, écoute...